Les cours du Collège de France, Sally Coco Moufouené, cher monde francophone.
Bonjour mesdames, messieurs. Je vous remercie d'être venus ce matin pour m'écouter. Et aussi le séminaire qui suivra après par le professeur Enoch Abo. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle parmi les linguistes l'histoire externe d'une langue, en parlant de plusieurs facteurs qui influencent l'évolution d'une langue, sans toucher les données linguistiques propres en termes de structure, parce que pour nous parlons souvent de la cause des changements qui arrivent. Et ce que je vais discuter aussi ici, c'est une combinaison de plusieurs facteurs qui influencent l'évolution d'une langue, en partant de ce que nous avons appris sur la langue créole pour réfléchir sur l'évolution de la langue française. Et le titre est clair, et je vais commencer par expliquer comment je comprends le principe uniformitaire. C'est un principe que nous avons emprunté à la géologie. À la fin du 19e siècle, le géologue Charles Lyell a expliqué que dans des conditions économiques écologiques semblables, les phénomènes similaires évoluent plus ou moins de la même façon. Et quand on fait attention aux changements géologiques, ceux-là sont conditionnés par plus ou moins les mêmes facteurs, mais à des temps différents. C'est comme on dit, l'histoire se répète d'une certaine façon. Ce n'est pas exactement la même chose parce qu'il n'y a pas de situations qui sont entièrement identiques. Mais quand on fait attention aux grandes lignes des choses qui arrivent, on voit qu'il y a des choses qui arrivent de plus ou moins la même façon. Et en linguistique, il y a des gens qui font la linguistique historique et qui ont embrassé ce principe uniformitaire. Et nous disons que la langue évolue de plus ou moins la même façon quand les écologies se ressemblent. Et cette thèse s'applique autant à l'émergence des créoles qu'à celle du français. C'est une thèse qui était déjà soumise à la fin du 19e siècle par Hugo Schuchart, qui est à gauche. Et je pense que c'était en 1977 par Schliebenlanger, qui est à droite là-bas. Et moi, je vais développer cette thèse en parlant des choses que ces auteurs ne discutent pas dans leurs travaux. Et nous allons commencer par l'évolution différentielle. Qu'est-ce que l'évolution différentielle d'une langue? D'un côté, je vais discuter le français et de l'autre, le latin, mais de la perspective créoliste. Des langues qui sont entrées en contact avec d'autres langues, et ce que je veux montrer, que le latin s'est transformé en des variétés nouvelles qu'on pourrait appeler des français. On peut aussi les appeler des variétés néolatines. Et quand on voit les changements qui se sont faits, en fait, on se rend compte que nous avons eu tort de traiter les créoles comme si c'était des parlers exceptionnels, sans parenté génétique, et que les créoles, en fait, ont évolué de plus ou moins la même manière. Et plus nous comprenons comment les créoles ont évolué, plus on reçoit un message qui nous dit « réexaminer l'histoire du français ». Et il y a une journaliste qui a mal interprété ma position. J'ai dit le français a évolué par les mêmes principes qui ont produit les créoles, mais je ne voulais pas dire que le français est un créole. Parce que si on continue comme ça, toute langue moderne, on devrait l'appeler créole. et dont à la fin créole devient synonyme de langue, et nous n'apprenons pas grand-chose. Et il n'y a pas vraiment, je ne crois pas qu'il y ait un processus qu'on pourrait appeler créolisation, parce que qu'est-ce qu'on dit quand on dit créolisation? Devenir un créole. Mais devenir un créole n'est pas une explication de ce que créolisation signifie. Donc, mais de toute façon, ce que nous voyons ici, il y a déjà dans l'Antiquité, il y a l'Empire romain qui s'est établi. Et avec l'Empire romain, il y a le latin qui s'est dispersé, qui s'est répandu en Europe et au nord de l'Afrique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a qu'une partie de l'Empire romain qui est devenue roman, dans le sens où on parle de langue romane. Et la plus grande partie de l'Empire romain n'est pas devenue roman, et ça c'est très intéressant, on devrait pouvoir l'expliquer. Et moi, je dis, quand on procède d'une façon uniformitaire, on pourrait bien avoir une explication. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit dans le cas du français? Il s'est répandu aussi à partir du XVIIe siècle autour du monde. En certains endroits, le français est devenu un créole. En certains endroits, le français est devenu de nouveau dialecte du français, des dialectes coloniaux du français. Et dans certains contextes, avec une dimension politique, on parle de français d'Afrique. Un français qui s'est indigénisé, mais qui ne fonctionne pas vraiment comme un vernaculaire. Et je vais utiliser la perspective créoliste pour répondre aux questions qui se soulèvent. Et l'avantage que moi je trouve, avec d'autres, comme Enoch qui est ici, c'est que plus on fait face aux questions, plus on se rend compte qu'il y a beaucoup de questions sur l'évolution des langues romanes que les romanistes n'ont pas discutées. Et donc, mon projet, ce n'est pas que j'ai des réponses à toutes les questions, mais c'est d'engager plus de personnes, si c'était beaucoup plus de personnes, à réfléchir sur les questions sur lesquelles nous n'avons pas encore des réponses claires. Et qu'est-ce qu'une évolution différentielle? C'est que dans le cas en biologie, on parle d'évolution différentielle lorsque une espèce ou un phénomène ne se reproduit pas de façon uniforme dans les écologies différentes. Par exemple, si on déplace une espèce particulière à des écologies nouvelles qui sont différentes l'une de l'autre, l'espèce va évoluer de façon différente. Il pourrait y avoir beaucoup de raisons, parce qu'en général, on ne déplace pas toute une espèce, on déplace les organismes qui font partie d'une espèce. Et la variation dans l'organisme peut devenir un facteur particulièrement intéressant. Pourquoi est-ce que dans une colonie, on voit des colons, plus de colons avec des cheveux roux que des colons avec des cheveux blonds? Ça peut être un biais dans la sélection des gens qui sont partis dans les colonies, mais ça peut être aussi le résultat d'un facteur qui a favorisé les gens aux cheveux roux dans la colonie. Ça peut être des facteurs climatiques, ça peut être des facteurs alimentaires et tout ça. Tout ceci peut influencer l'évolution d'une langue. Et les linguistes se sont intéressés à l'évolution différentielle avant même que nous ne puissions parler de l'évolution différentielle. On voit les travaux de August Schleicher, dont la photo est ici, qui a voulu montrer à quel point les langues indo-européennes peuvent être groupées selon un modèle d'arbre qu'on appelle en allemand Stammbaum, que les biologistes maintenant appellent cladogramme. Et il paraît aussi que Charles Darwin, quand il a produit le premier cladogramme, il s'est inspiré de ce qui se faisait en linguistique par August Schleicher. Et pas surprenant, Dès que Charles Darwin a publié The Origins of Species, August Schlacker était l'un des premiers à écrire un compte-rendu très élaboré, compte-rendu article sur le livre, en montrant qu'il y avait des similarités entre la diversification en biologie et la diversification au niveau de langue. Et ce sont les représentants initiaux. Et après, au lieu de représenter les choses comme ça de gauche à droite, on a représenté de haut au bas. Et que c'est comme ça que nous voyons les graphiques arborescents qui représentent les connexions génétiques ou généalogiques entre les langues. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les colonies? La langue concernée entre en contact avec des langues non identiques. Et non, ça, je reprends les choses ici. Ce qui se passe quand on parle de différenciation différentielle dans le cas des langues, on dit, prenons par exemple le français. Le français, les langues avec lesquelles le français est entré en contact aux Antilles ne sont pas nécessairement les mêmes langues avec lesquelles le français est entré en contact à l'océan Indien, dans ces cas-là. Il y avait beaucoup plus de langues bantoues dans l'océan Indien, tandis que aux Antilles, il y avait des langues bantoues, mais les langues bantoues étaient en compétition aussi avec les langues kwa, et les premiers contacts auraient été avec les langues kwa, par exemple. Et ça, ça fait une certaine différence dans les mélanges qui se produisent. Pour les gens qui parlent les français africains, s'ils font attention, le français tel qu'il est parlé par les Africains en Afrique de l'Ouest n'est pas identique au français qu'il est parlé par les Africains en Afrique centrale. D'un côté, on a les langues atlantiques, le Wolof par exemple, ou on a les langues kwa, les ewe par exemple, tandis qu'en Afrique centrale, ce sont surtout des langues bantoues. Et vous faites attention, les très prosodiques surtout ne sont pas différents, sont différents, et les innovations morphosyntaxiques qui sont faites en Afrique diffèrent entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Ce sont des choses auxquelles on devrait faire attention. Et les nouveaux types de contacts entre dialectes de la même langue émergent. C'est le cas, par exemple, de Koiné. Donc, nous, quand nous faisons les comparaisons entre les créoles et le français en particulier, la plupart d'entre nous qui ne sont pas des locuteurs d'héritage du français, nous tendons à faire des comparaisons entre le français scolaire que nous avons appris et les créoles. Et là, c'était une démarche fausse. On a perdu beaucoup de temps pendant plus d'un siècle à faire de mauvaises comparaisons. Les comparaisons devraient se faire entre les créoles et les parlers populaires des Français dans les colonies. Et ce qui se passe, comme les gens sont partis de plusieurs régions de la France et que la France était en fait un pays multilingue, qu'on le veuille, qu'on l'accepte ou pas, plusieurs variétés néo-latines, il a fallu trouver un accord entre les différentes variétés populaires, dont c'est une koiné qui se forme dans une plantation, une autre koiné qui se forme dans une autre plantation, et on peut trouver de la variation. Par exemple, Haïti, dans une partie de Haïti, le haïtien n'est pas exactement comme le haïtien dans une autre partie de Haïti. Et la langue est se retrouve dans une structure de population différente. Il faut faire attention à des facteurs tels que ségrégation versus intégration. Au Québec, par exemple, les Français, les francophones, ils sont réunis entre eux. Okay. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ségrégation parmi les francophones. Bien qu'on puisse parler d'une ségrégation sociale ou topographique entre les francophones et les anglophones, mais ce n'est pas cela qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le genre de structure de population qui se retrouve à Haïti ou en Guadeloupe ou à l'île Maurice, où il y a à un certain moment une ségrégation basée sur la race entre les colons européens et les Africains. Et on doit se poser des questions sur les genres de contacts qui s'établissent entre des populations dans une nouvelle écologie exogène et comment est-ce que cela influence l'évolution de la langue. On doit faire attention aux disproportions démographiques. Ce qui est arrivé en fait, qui explique la ségrégation, dès que la population servile est devenue très majoritaire, disons 90% des populations serviles et 10% des colons, pour des raisons de sécurité, on a établi la ségrégation résidentielle, mais aussi pour s'assurer qu'on peut bien contrôler le groupe qui est dominé, un groupe qui est dominant mais minoritaire, a tout intérêt à maintenir une ségrégation résidentielle et des mécanismes de contrôle sur la population qui est dominée. Et puis, on a des relations sociales non égalitaires, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus forcés à faire des concessions à une autre partie de la population hétérogène que certaines autres personnes, qui imposent sa langue sur les autres. Et puis on verra plus tard que ce n'est pas seulement question d'imposer sa langue, parce que si c'était comme ça, les choses n'auraient peut-être pas réussi. On va voir le rôle des populations dites créoles, des populations en particulier non européennes qui sont nées dans les colonies, mais qui ne sont pas, qui sont indigènes aux colonies d'une certaine façon, parce que les créoles sont nés dans les colonies. Mais ils sont indigènes à un niveau moins entranché dans le sol que les populations indigènes qui étaient là et qui, dans certains cas, ont fini par être décimées par les colons. Et ce sont des choses auxquelles nous devons faire attention. Et quel est le médium de transmission? OK. Il n'y avait pas d'école au moment de la colonisation, des peuplements des îles où les créoles se sont développés. Donc, la transmission se faisait par des interactions qui sont horizontales. Et là, j'ai appris aussi que dans toutes les langues, la transmission de la langue n'est pas nécessairement verticale. En fait, elle est moins verticale qu'elle n'est horizontale. Et si elle est verticale, contrairement à ce qui se passe en biologie, la biologie animale, pas la biologie des virus, c'est une transmission qui va dans les deux sens. Moi, en tant qu'immigré aux États-Unis, j'ai aidé ma fille à apprendre l'anglais, mais j'ai appris beaucoup plus d'anglais en élevant ma fille que l'anglais que j'avais appris à l'école. Parce que l'anglais que j'avais appris à l'école, c'était pour des domaines très limités. Et tout d'un coup, ici, avec ma fille, je devais fonctionner comme si j'étais locuteur vernaculaire de l'anglais. Et dans le processus, c'est ma fille qui m'a amené à la maison plusieurs idiomes, plusieurs expressions que je n'aurais jamais appris à partir des livres, à partir de l'école. Donc c'est un langage tout à fait différent, et les immigrés apprennent beaucoup de leurs enfants, et comme ils apprennent aussi à partir des individus avec lesquels ils interagissent plus ou moins régulièrement. Et ça, c'est différent par exemple de la transmission du français en Afrique, où le médium de transmission, c'est surtout l'école, et je l'appelle français scolaire. Alors, vous ne devez pas être surpris si vous causez avec un Africain et qu'il utilise des idiomes qu'on trouverait dans les travaux de Victor Hugo. Qui est-ce qui utilise ce vocabulaire? Certains Français, mais c'est le français tel que nous l'avons appris dans les livres. Ne vous moquez pas de nous. Autrement, vous devriez nous avoir exposés à des variétés différentes du français, ce qui n'est pas le cas. Et qui sont les locuteurs modèles? Et ça, c'est très important. Et ça, je l'ai aussi observé en tant qu'étudiant aux États-Unis. Je vis aux États-Unis et partout, les gens parlent anglais. Mais avec qui est-ce que je socialise le plus? C'est d'autres immigrés et pas les Américains d'héritage. Et qu'est-ce qui se passe? Je fais beaucoup plus confiance aux immigrés qui ont réussi, qui sont venus avec moi, et dont il y a des distorsions que j'apprends aussi de leur façon de parler, qui me rend différent des autres Américains, parce que ce n'est pas exactement la même chose. Jusqu'au moment où ma fille est née, alors maintenant avec les Beaux de Paris, les parties d'anniversaire, j'ai rencontré beaucoup d'autres parents d'héritage et j'ai rencontré certains collègues et nous pouvons former certains clubs. Et par ce mécanisme, j'apprends une variété d'anglais qui est différente de l'anglais que j'avais appris à partir d'autres immigrés qui étaient venus avant moi et tout ça. Donc ça, c'est très important. Dès qu'il y a une ségrégation, par exemple dans les plantations, ce qui est normal, c'est que les populations serviles qui viennent plus récemment apprennent des populations serviles qui sont arrivées avant elles. Et c'est comme ça que Robert Chaudançon a proposé la formule approximation des approximations des approximations. Et il a parlé de divergence et mon collègue Enoch m'a corrigé. Il a parlé de basilectalisation. Basilectalisation, je reviendrai à ce terme plus tard. Et Enoch m'a dit, mais ça c'est être exceptionnaliste. Si on est uniformitaire, on ne doit plus utiliser le terme basilectalisation, on utilise seulement le terme divergence qui dit la même chose. Et en fait, avec moins de biais que le terme basilectalisation. Et là, bon, ceci c'était seulement pour illustrer le rôle de la ségrégation. Et on le voit dans les villes américaines qui sont très ségrégées, on le remarque facilement et souvent c'est seulement une route qui sépare, mais parfois c'est une rivière, il y a un pont, mais il n'y a pas beaucoup de trafic dans l'une ou l'autre direction sur le pont, surtout en termes de socialisation. On ne doit pas confondre ça avec les migrations qui se font pour le travail, on va travailler. Mais quand on revient à la maison, on ne va pas socialiser avec les gens avec lesquels on travaille et ça fait beaucoup de différence. Et l'écologie socio-économique de la langue cible, qu'est-ce que cela, quel rôle est-ce qu'elle joue, quels sont les facteurs les plus importants? Alors, il y a, je ne sais plus, à peu près 30 ans, j'ai proposé le principe fondateur que j'ai encore emprunté à la biologie, c'est que les gens qui sont arrivés les plus tôt exercent une influence qui est disproportionnée par rapport à leur taille dans la population actuelle. C'est-à-dire que ici, on voit que les pionniers dans les colonies étaient des éléments dont la métropole pouvait se dispenser. Il y avait beaucoup de risques, les gens mouraient vite et tout ça. Ce n'est pas l'élite des populations européennes qui est allée dans les colonies. Et c'était des locuteurs de parler populaire. Et c'est pour ça que le parler populaire s'est bien imposé parmi les populations serviles, sauf que par la formule d'approximation des approximations, les choses divergent de plus en plus. Et voilà le linguiste qui arrive et dit, nous allons les appeler créoles. OK. Donc, ça ne signifie pas que ce qui a été introduit par la population fondatrice reste intègre parce que ça change. Et nous voulons savoir quels sont les facteurs qui ont introduit des changements de la partie des colons européens et aussi de la partie des populations serviles. Et on veut savoir quelle est la grandeur, d'abord quelles sont les langues ou les variétés langagières parlées par les premiers colons. Donc, on constate qu'il y avait diversité dans la langue cible, d'où on peut parler de koinéisation, la formation des koinés. Et ce sont les koinés qui sont devenus des modèles de français et pas nécessairement le français tel qu'il était parlé à la métropole. Et pour voir ça, il faut aller au Québec, il faut aller à l'île de Saint-Barth, où il y a d'importantes de colons qui se sont imposés, qui n'ont pas beaucoup interagi avec des populations serviles, surtout pas au Québec. Une des raisons, c'est qu'ils étaient trop pauvres pour avoir des esclaves. Ok. Mais aussi, quand on voit maintenant le parler, le français qui est parlé, le français vernaculaire et non standard qui est parlé au Québec, il est différent de même de parler populaire, de dialectes populaires à la métropole. C'est parce qu'il y a eu ce processus de colonisation qui a produit une variété coloniale ou des variétés coloniales qui ne sont pas vraiment telles que les variétés d'héritage qui sont parlés à la métropole. Quelle est la grandeur des peuplements initiaux? Pour des raisons financières, on ne pouvait pas commencer avec les plantations. Pour des raisons financières, les plantations ont émergé assez, pas tout à fait au début, mais peut-être 10 ans plus tard, peut-être 20 ans plus tard, peut-être 50 ans plus tard. En fait, moi, je compare l'évolution des plantations dans les colonies de peuplement à la construction des cathédrales en Europe. Celui qui a eu l'idée de construire une cathédrale est mort peut-être 200 ans ou 300 ans avant qu'on achève la cathédrale. Oui. Pour des raisons financières aussi. Ok. On a commencé généralement avec des habitations qui sont des peuplements tout à fait petits, taille d'une ferme. Okay. Et petit à petit, ça dépend si on a la chance de survivre et d'acheter plus de terrain ou si on meurt plus tôt, mais on a un neveu quelque part qui, 30 ans plus tard, se rend compte que son oncle avait quelque chose à l'île. Il vient et il amène un peu plus d'argent et il fait quelque chose avec ça. Et puis, de génération en génération, la plantation émerge. Quels sont les rapports de force, de pouvoir économique entre les populations en contact? Les populations serviles n'avaient pas pouvoir de force politique, n'avaient pas de force économique. On les a plutôt utilisés comme des instruments, des machines de travail, et on les a bien exploités et de façon inhumaine, ça on n'oubliera pas. Et quel est le taux ou le schéma de croissance démographique? On revient encore à l'argent. Quel est le pouvoir d'achat dans les colonies? J'ai appris la meilleure chose en Jamaïque, où la Jamaïque était confisquée des Espagnols. Et les Anglais, à ce moment-là, n'avaient pas une armée, une marine assez puissante pour vaincre les Espagnols. Ils ont fait un pacte avec les pirates, et les pirates les ont aidés à conquérir l'île. Et après ça, le gouvernement colonial de l'Angleterre a voulu récompenser les gens qui les avaient aidés en leur donnant de l'eau, des terres à développer. Mais les gens n'avaient pas d'argent, ils ne pouvaient pas s'acheter des esclaves. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont allés travailler avec les pirates. Et donc, la Jamaïque est devenue la capitale de piraterie du monde au XVIIe siècle. Et il a fallu un tremblement de terre pour que les aventures de piraterie tombent, parce que l'île de Port-Royal est engloutie par un tremblement de terre sous l'océan, dont l'industrie de piraterie est morte. Mais alors les gens se sont lancés à l'agriculture. Mais c'était petit à petit, et 50 ans plus tard, on arrive à une disproportion importante entre les colons européens et les Africains, une disproportion de 1 à 10, 10 à 100, à 90% de la population en faveur des populations serviles. Mais la population servile était dispersée dans des petites fermes, les habitations. Il n'y en avait pas beaucoup au même endroit. Il a fallu que petit à petit les grandes plantations émergent pour qu'on trouve des grandes concentrations de populations serviles sur une plantation de peut-être 300 personnes, 400 personnes. Et c'est comme ça que le créole est né en milieu rural, mais en parallèle avec la grandeur des populations, la grandeur des plantations. Okay. Dans les petits endroits qui sont restés des habitations, personne ne parlait créole. Dans les villes, personne ne parlait créole. C'est après l'émancipation que le créole est exporté des plantations à la ville. Et c'est une histoire longue. Il n'y a pas eu de créolisation, comme on dit, d'émergence subite des créoles. Et on peut retrouver ce schéma presque partout où le créole a émergé, sauf là, par exemple en Asie, où par excès de zèle, les créolistes ou les linguistes trouvent de nouvelles variétés du portugais parlées par les Asiatiques. Ah, mais ce ne sont pas les Européens, non? C'est un créole. C'est trop facile. Ok, mais ce sont des cas où on a beaucoup de questions sur lesquelles on doit réfléchir. Les esclaves créoles et chevronnés, je n'ai jamais réussi à trouver une bonne traduction pour ce qu'on dit en anglais, seasoned slave. Ce sont des créoles acclimatés. J'ai cherché dans le dictionnaire, j'ai trouvé le terme chevronné, je pense que ça vous dit quelque chose. Et ce sont les esclaves créoles et chevronnés qui fonctionnent comme modèle. C'est comme moi qui, aux États-Unis, trouve comme modèle les immigrés qui sont arrivés avant moi. Donc, autant de ressemblances entre l'émergence des variétés néo-latines et celle de parler créole, parce que plus tard, qui sont devenus des locuteurs modèles du latin dans les provinces de l'Empire romain. Alors, je parlais de pauvreté au début, au XVIIe siècle. Chaudanson nous parle des conditions de Robinsonade. Ça vous donne une idée, Robinson Crusoe, isolé, et qui doit se débrouiller. Et tout le monde vit dans des cabines comme ça. C'est plus tard, quand les plantations se développent, qu'on peut trouver les grandes maisons de plantation qui sont très beaux, bien décoré, très riche, mais au départ ce n'était pas comme ça, parce qu'il fallait accumuler du capital, un capital financier. Et au XVIIe siècle, la plupart des colons n'avaient pas assez de capital financier. Quand vous allez chercher un prêt à la banque, le système devenait déjà capitaliste. L'Europe s'est débarrassée du féodalisme. On est dans le capitalisme, vous voulez à la banque, qu'est-ce que vous avez comme collatéral pour votre prêt? Rien, mais attendez. Et puis petit à petit, les choses évoluent et il y a très peu de gens qui ont développé des grandes plantations, parce que la plupart des colons sont restés des fermiers. Ok. Pour des raisons financières, la transition était lente, le développement des grandes plantations était incrémental, comme la construction des cathédrales en Europe, la grande disproportion démographique en faveur des populations serviles s'est accumulée graduellement, et la basilectalisation comme divergence structurelle par rapport à la langue de base était aussi un processus incrémental faisant partie de l'autonomisation des normes et des variétés coloniales. C'est-à-dire, plus on est isolé de la population d'héritage, plus on a tendance à développer ses propres normes. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, avec les Français d'Afrique. Ce n'est pas seulement le cas du français, c'est aussi le cas du portugais, c'est aussi le cas de l'anglais dans les colonies. Et surtout après les indépendances à partir de l'Afrique, c'est là qu'on voit de plus en plus de divergences, parce qu'avant les indépendances, il n'y avait qu'une toute petite fraction des populations colonisées qui apprenaient la langue du colonisateur. Alors, les créoles, comme de nouveau parlé, c'est-à-dire, il y a des linguistes tels que Rebecca Posner et l'historien linguiste Robert Lawrence Trask qui ont dit les créoles sont de nouveau parlés romans. Et ils ont dit ça parce qu'il y avait une certaine tradition en créolistique qui disait que les créoles étaient des langues sans parents. Donc on ne pouvait pas les connecter à ce qu'on appelle des proto-langues, des langues mères. Mais ce qu'on avait oublié, c'est qu'on avait mal interprété le modèle arborescent développé par August Schleicher. Le modèle d'August Schleicher ne nous dit pas comment la diversification a opéré. Le modèle nous montre l'aboutissement du processus de divergence. Okay? Et nous, dans les études créoles, nous nous sommes concentrés plus sur le processus de divergence. Et on a conclu que comme il y avait eu contact des langues, les langues créoles n'étaient pas vraiment reliées à la langue européenne. Ce sont des langues bâtards, si on peut le dire. Derek Bickerton, le titre d'un de ses livres, c'est « Bastard Tongues », de langue bâtard. Okay. Mais à revoir l'histoire du français, on devra se demander est-ce que le français est aussi une langue bâtard. Okay. Et on pourrait arriver à la même conclusion, mais comme le français reflète des influences de langues autres que le latin, sur le latin vulgaire, on a beaucoup de raisons à croire que les créoles, l'étude de l'émergence des créoles, nous rappelle comment on devrait faire la recherche sur la diversification d'une langue, surtout quand elle se répand dans un espace aussi grand que dans le cas du français et tout. Et ici, nous sommes dans l'Empire romain, et dans l'Antiquité déjà. Ce que cette carte montre est qu'il y a plusieurs successions d'empires. Par exemple, les Phéniciens ont monopolisé la Méditerranée pour le commerce. Après sont venus les Grecs en bleu. Et après sont venus les Romains. Et la question qui est importante, c'est que après la chute de l'Empire romain occidental, l'Angleterre n'est pas devenue un pays romain. Pourquoi? On devrait essayer de comprendre ça. Mais la partie occidentale du sud est devenue romain. Et on devrait pouvoir expliquer ça. Et pourquoi à l'est, ce n'est pas le cas. Il y a quelques deux ou trois langues romanes là-bas, mais sinon, il n'y en a pas beaucoup. Et on se rend compte que les Romains, dans l'Empire de l'Est, utilisaient le grec comme langue coloniale et pas le latin. Donc les colons n'imposent pas toujours leur langue. Et qu'à l'Ouest, c'est un régime tout différent où ils ont développé des contacts, des pactes avec les dirigeants locaux. Et ils les ont romanisés. Et leur ont permis d'avoir les mêmes privilèges que les Romains. Ceux-là pouvaient devenir sénateurs,
Il y en a qui pouvaient, il y en a un ou deux qui sont devenus même empereurs, et ça c'est très intéressant. Et après la chute de l'Empire romain, ce sont ces gens-là qui ont joué un rôle critique dans l'expansion du latin parce que les Romains, eux, étaient partis. Ça vous rappelle aussi l'Afrique, non? Après les indépendances, qu'est-ce qui est arrivé? Le modèle pour le français, c'était des locuteurs qui ne sont pas des locuteurs d'héritage, c'était des Africains. Donc les Africains apprennent des Africains et apprennent des Africains. Approximation, ça amène à plus ou moins le même résultat. Et deux, trois variétés du latin sont introduites dans les provinces de l'Empire. Il y a le latin classique, qui était très prestigieux, mais parlé par une petite minorité, et utilisé surtout en écrit. Je ne sais pas si Erasmus ou d'autres intellectuels européens qui écrivaient en latin parlaient aussi le latin comme vernaculaire. Ça, je doute fort.
OK.
Il a le latin ecclésiastique et les missionnaires, ils ont joué un rôle très important dans l'évolution de l'enseignement en Europe et tout. Et leur latin n'était pas tout à fait le latin de Rome non plus. Et puis il y a le latin vulgaire qui s'est répandu surtout par les commerçants. Et on veut comprendre la nature de l'Empire romain en tant que forme de colonisation. Ce n'était pas vraiment le genre de colonisation d'exploitation qu'on voit en Afrique, mais ce n'était pas une colonisation de peuplement non plus, c'était quelque chose d'autre. Mais basé sur le commerce, d'où l'expression toutes les routes conduisent à Rome, mènent à Rome.
Tous les chemins
mènent à Rome. Tous les chemins, oui, vont à Rome. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a des facteurs assez importants dans la vie des gens. Et je vais arguer que ce qui a favorisé l'expansion du latin en Europe, même après le départ des colons romains, ce sont les activités économiques des gens. Les Romains ont introduit l'urbanisation et les premiers centres urbains se sont développés à partir des endroits où les Romains faisaient le commerce. Et puis, il y a un système économique nouveau qui s'est développé, qui a remplacé le système indigène, dont le latin était capable de nourrir son homme mieux que les activités économiques traditionnelles. Et petit à petit, les gens apprennent le latin parce que ça amène le pain à la maison. OK? Et donc, mais ce n'est pas quelque chose qui s'est passé en un siècle ou deux siècles, tel que les gens nous le racontent dans les livres de l'histoire des langues romanes. Mon hypothèse, et ça peut être une spéculation gratuite, c'est que la France n'est pas devenue entièrement francophone jusqu'au XXe siècle. Mais là, c'est un jeu différent parce que il y a les langues celtiques qui sont subordonnée. Et le contact du latin avec des langues celtiques dans plusieurs parties de l'Empire donne produit plusieurs variétés néo-latines. Et après, les variétés néo-latines sont en compétition l'une avec l'autre. Et ce qui est intéressant, quand je vois l'usage du terme patois en français, il n'est pas clair si patois est utilisé en référence aux langues celtiques ou en référence aux langues, aux variétés néo-latines qui ont moins de valeur aux yeux des gens qui ont le pouvoir, plus de pouvoir économique, plus de pouvoir politique. Et après tout, on se retrouve à l'île de France où il y avait le roi et tout, et il y a une certaine variété qui est attaché à la monarchie. En dépit de la Révolution française, la langue des monarques a prévalu sur les autres variétés. Et ça, c'est aussi un processus très intéressant. Et je dirai plus tard, Avec les créoles, nous ne sommes pas encore là, parce que les créoles sont encore subordonnés à la variété dite acrolectale. Il fallait une révolution à la française, je pense, pas aussi violente, mais une révolution qui peut renverser les choses dans les anciennes colonies pour que les créoles deviennent la langue du pouvoir politique, que deviennent la langue du pouvoir économique. J'ai mal dit, fait de parler de pouvoir politique d'abord parce que c'est la machine économique qui fait marcher les choses et pas tellement la machine politique. Ok. Alors, vous avez peut-être lu tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu un seul temps dans l'histoire de la France où on pouvait dire que tout le monde parlait le même latin vulgaire ou la même variété néo-latine, parce qu'il y avait diversité entre des langues celtiques. Nous parlons souvent du gaulois. Est-ce que le gaulois était vraiment unifié? C'est une question à laquelle il faut répondre. Et pourquoi est-ce qu'on devrait s'attendre à ce que le gaulois soit unifié? Il n'y avait pas vraiment de France avant le XVIIe siècle, pour ainsi dire. Ce sont certaines parties de la France moderne qui se sont engagées dans la colonisation. C'est comme ça aussi avec les autres pays colonisateurs. Mais cette carte nous montre qu'il y avait des diversifications, qu'il y avait variations dans ce que l'on parlait. Okay. Il n'y a pas raison de supposer que le latin vulgaire était lui-même plus uniforme que le parler non standard du français dans les colonies. Et en fait, Robert Chaudançon et Louis-Jean Calvet nous rappellent que les gens dans les colonies étaient surtout des patoisans. Il y a des... il y a par exemple le père là-bas qui nous dit... Beaucoup de Français apprendraient bien les colons français apprendraient bien, surtout les engagés, apprendraient bien le français auprès des populations serviles qui avaient déjà appris le français dans les colonies. Ça, c'est aussi un facteur très important parce que tout le monde n'était pas francophone parmi les colons. Il y a des patoisans parmi les colons. Pourquoi est-ce qu'on oublie l'influence des patoisans sur l'émergence des créoles? Pourquoi est-ce qu'on doit tout blâmer sur l'Afrique? Nous sommes invités à faire un examen de conscience. Nous avons des biais racistes, excusez-moi de le dire clairement, qui nous ont forcés à penser différemment sur les créoles que sur les autres langues. Et je vous invite à réouvrir les livres et à voir ce qu'on aurait pu corriger en parlant de l'histoire du français. Notons que le latin se diffuse dans les centres urbains et en milieu rural après la chute de l'Empire romain occidental, grâce au succès du nouveau système économique. L'expansion territoriale est contraire, bien sûr, à celle des créoles, parce que les créoles se développent en milieu rural et plus tard, après l'émancipation, se diffusent en milieu urbain. Et c'est le contraire en France. Mais ce qui est commun entre ces genres d'expansion, c'est que c'est la langue de la majorité de la population qui finit par faire du terrain. Et c'est la langue de la majorité de la population qui a un certain pouvoir sur l'évolution de la langue. Et ceci se passe en France, et c'est comme ça que le latin classique perd sa place à partir du moment où on dit « nous devons utiliser la langue du peuple » et il n'y a plus de place pour le latin classique. Vers le XVIIIe siècle, les gens publient de plus en plus dans la nouvelle langue française, mais une certaine variété du français. Ok. Les nouvelles dynamiques socio-économiques amènent les structures des langues à converger. C'est comme un peu le processus de koinéisation dans les colonies. Mais il y a quelque chose qu'on doit voir. Est-ce que la koinéisation est vraiment comme on l'a définie en linguistique historique? C'est-à-dire que les langues se réduisent à leur dénominateur commun. Réfléchissez un peu là-dessus. Si tout devait se réduire au dénominateur commun, il n'y aurait plus de langue. Le dénominateur commun serait tout petit. Je ne pourrais pas communiquer. Donc ce qui se passe dans la koinéisation, c'est plus ou moins la même chose que les genres de changements qui sont arrivés pour les autres parler. Il y a un feature pool, un pool de traits, et là les traits se retrouvent en compétition les uns avec les autres, et on doit essayer de voir quels sont les facteurs qui ont favorisé la sélection de certains traits par rapport à la sélection des autres traits. Donc, quand je parle de koiné ici ou de koinéisation, ça ne doit pas être selon la définition classique de koinéisation. Ça doit être dans le sens de, comme on dit en anglais, competition and selection. Ça, je peux traduire en français compétition et sélection. Oui, oui. Et en fait, nous avons un avantage par rapport aux biologistes, parce qu'il est plus facile pour nous de détecter les facteurs non linguistiques qui ont influencé les sélections que pour les biologistes. Les biologistes ne peuvent pas nous dire pourquoi un enfant est né avec des yeux bruns plutôt qu'avec des yeux bleus, pourquoi un enfant est né avec une chevelure noire plutôt qu'une chevelure blonde, et ainsi de suite. Okay. C'est comme si c'était des accidents de nature. Il doit y avoir des explications quelque part. Maintenant que nous sommes de plus en plus engagés avec la science de la complexité, il est très probable que quelqu'un essaiera de nous expliquer comment cela se passe en biologie. Mais au moins, pour les langues, ici, nous avons une certaine avance sur les biologistes, tout comme August Schlacker avait une avance sur les biologistes en termes de graphiques arborescents. OK. Et les nouvelles dynamiques socio-économiques amènent les structures des langues à converger. Et il y a aussi indigénisation différentielle comme conséquence de la diversité des langues substratiques. Une petite différence est que les langues substratiques sont en compétition entre elles-mêmes dans le côté français et le côté des créoles. Mais est-ce que ce n'est pas la même chose pour les Français, les différents Français en France ou les différentes variétés néo-latines en France? Et pourquoi est-ce qu'à un certain moment, c'est seulement une certaine variété néo-latine qui s'impose sur les autres? Et on pourrait dire que l'émergence du français est corrélée avec celle de la France comme État-nation. À un moment, ce n'était pas nécessaire d'avoir une seule variété du français que tout le monde devait apprendre à l'école et dans laquelle tout le monde devrait écrire, parce que la France n'existait pas. Et dès que la France est constituée, pour des raisons d'administration, pour des raisons politiques, on trouve que c'est nécessaire d'être unifié par une langue. Alors commence la tyrannie linguistique, où on impose une certaine variété à tout le monde, et tout le monde doit l'apprendre. Donc il y a le rôle des institutions politiques et administratives, ainsi que la centralisation du système étatique en France. La France est le seul pays de l'Europe, je pense, le seul grand pays de l'Europe où on ne peut pas venir en avion d'en dehors de l'Europe et ne pas passer par Charles de Gaulle. Ouais. Je peux aller en Allemagne, je ne dois pas aller par Berlin. Je peux entrer par un autre aéroport, Munich, Francfort. OK. Et les meilleures maisons de publication en France sont à Paris. Les éditions, les grandes éditions sont à Paris. Tout est à Paris. L'administration française est tellement centralisée que la langue doit aussi être centralisée. C'est ce qui se passe. Et donc, à cause de la Révolution française peut-être, mais pour d'autres raisons, il y a eu dévaluation du latin classique et de nombreuses variétés néo-latines caractérisées de dialectes ou patois. Et les créoles n'ont pas encore évolué à ce point, alors que la collecte reste le privilège de l'élite, d'où Michel Degraffe, qui sera ici pour le colloque le 7 juin, se plaint toujours de l'impérialisme français qui continue à dominer à Haïti, où une petite couche sociale qui parle français veut tout contrôler et dirige tout. Et il leur manque encore, il manque aux créoles le pouvoir économique, politique. On peut dire que les créoles sont des langues sans armée et sans marine. Alors, la question que vous pourriez peut-être me poser, est-ce que les créoles français qui ont évolué du français sont de nouvelles variétés de français ou de langues tout à fait différentes? Ça, c'est une question qu'on ne doit pas poser à un linguiste. Ce serait trop colonial à un linguiste de dire aux gens, vous parlez une langue différente de français, donc c'est une autre langue. Ou ce que vous parlez vient du français, donc ça doit être du français. C'est au locuteur natif, au locuteur créolophone eux-mêmes, de dire ce qu'ils pensent. Dans le cas de la Jamaïque, j'ai trouvé, je parle à quelqu'un qui parle le créole basilectal et il se rend compte que je ne le comprends pas bien et il dit à quelqu'un d'autre, est-ce qu'il ne parle pas anglais? Réfléchissez là-dessus. OK. Donc, et les mécanismes de spéciation qui ont produit les créoles et le français sont tout à fait semblables, mais les spécialistes créolophones ne sont pas entièrement d'accord sur l'identité langagière du créole. Est-ce que c'est un nouveau français colonial? Est-ce que c'est une langue tout à fait séparée? Gilles Fenn, dont je n'ai pas pu trouver une photo en ligne, a dit que le créole haïtien était un nouveau parler français. Et Suzanne Suvet, Commère-Sylvain, c'est vraiment comme les autres dialectes de français dans les colonies, mais c'est une langue séparée, compte tenu de la dernière phrase de son livre sur le syntaxe haïtien, et la phrase dit quelque chose comme le créole c'est le français parlé sur le modèle de Ewe. OK. Et Michel Degraffe, excusez-moi, Michel Degraffe, on ne pourrait pas lui dire que le créole pourrait être une variété du français. Pas du tout, n'essayez pas. Et je vous remercie.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.